plus rapidement que prévu. Puis maintenant, j'ai le passeport avec la feuille de plastique.
Mmh.
Il y a vraiment comme une carte d'identité rigide qui est ta première feuille de passeport.
Dans les prochaines minutes, on va parler avec Farnell Morissette, qui est vulgarisateur d'actualité, d'un sujet, j'allais dire qui divise, ça dépend, mais je suis curieuse de vous entendre là-dessus au 88-971-1021. Le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drinville, qui a annoncé vouloir couper les services donnés aux demandeurs d'asile s'il devient premier ministre le 12 avril prochain. On parle ici d'aide sociale, de logement social et d'accès aux garderies subventionnées. Pour votre information, en passant, le Québec qui reçoit environ, c'est quoi, c'est 40 000
par année, à peu près.
40 000 à peu près par année demandeurs d'asile. Fait qu'on va jaser avec Farnell Morissette dans les prochains instants. Il y en a qui ne savent même pas exactement qui sont les demandeurs d'asile. Fait qu'on va vraiment faire un tour avec lui dans les prochaines minutes. Vous êtes dans Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour.
Zoom, zoom, lunettes!
À la recherche d'activités pour la relâche, ça se poursuit au Centre de foire d'Exposité. C'est l'International de l'auto de Québec qui se déroule avec les nouveautés automobiles, une panoplie d'activités, la zone Jules Villeneuve, les voitures de collection qui ont une valeur de plus de 15 millions de dollars, du karting pour les enfants, puis la zone familiale Toyota. C'est en collaboration avec Mille Pattes Amusement, des jeux gonflables, une halte garderie, du maquillage. Vous avez le goût de vous faire rêver, de passer du bon temps en famille. Allez faire votre tour. Max Larouche est encore là demain avec Samuel Tremblay-Michaud de RPM qui sont là de 10h à midi. Alors que le Point de Max est diffusé en direct chaque année. On étonne avec de la nouveauté. Fait que manquez pas l'événement familial de la relâche, l'International de l'Auto de Québec du 3 au 8 mars à Exposité, en collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation.
C'est la vente 88.
On entre dans l'heure de 16h dans Gravel en retour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous venez de vous joindre. Je m'appelle Audrey Véro-Bergeron qui est là, Antonine Iacarini qui est là également, Denis en vacances de retour lundi prochain. Vous avez envie de vous joindre à nous, plusieurs façons de faire. Il y a le texto, vous pouvez toujours nous contacter, 88-971-1021. Il y a le téléphone, le 88-780-1021. Twitch, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. Si vous voulez voir ce qui se passe dans les dessous de la radio, vous nous voyez travailler, jaser. Une belle communauté aussi sur le Twitch, il faut le dire. Et il y a les différentes façons de nous rejoindre via les plateformes de réseaux sociaux. Là, tout ce qui est Instagram, Facebook, on a une chaîne YouTube. On a également... tout ce qui est X. On a TikTok même, Blue Sky, qu'on a utilisé pas trop longtemps, mais on est quand même là-dessus. Fait que si vous nous cherchez, on n'est jamais ben loin. Et il y a l'application Boulevard, évidemment. Prends pas de place sur le téléphone, elle est gratuite. Ça vous permet de nous traîner un peu partout. C'est plate, mais on n'a pas le choix de retourner un peu dans la circulation. C'est difficile aujourd'hui. Capitale-Est, entre Henri IV et Laurentienne, je vous dirais que c'est toujours au ralenti. Si vous êtes direction Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Léger ralentissement encore, Laurentienne. Ancienne Sud dans la bretelle pour aller chercher Capitale Ouest. Robert Bourassa, direction Nord, c'est entre Charest et la Capitale. Henri IV Sud, à partir de Charest jusqu'au pont La Porte, difficile pour le moment. C'est probablement l'endroit où c'est le plus bouché, là. Je ne vous ferai pas de mensonge. Il y a des problèmes également sur Duplessis Sud, à partir de Chemin Sainte-Foy jusqu'au pont La Porte. Si vous êtes sur la rive sud, c'est particulièrement sur la 20 direction Ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. Autre chose, 88-971-1021, texto. Je vous ai promis avant la pause une petite jasette avec notre vulgarisateur d'actualité préféré qui est Farnell Morissette. On va jaser d'un dossier qui fait l'actualité en ce moment. Le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drinville, qui a annoncé vouloir couper les services donnés aux demandeurs d'asile s'il devient premier ministre le 12 avril prochain. Donc, on parle d'aide sociale, de logement social, d'accès aux garderies subventionnées. C'est environ 40 000 demandeurs d'asile par an que le Québec reçoit en ce moment. Farnell, salut.
Salut.
On va commencer par ouvrir ton micro.
Oui, salut, oui.
On est content de te recevoir. Hey, ça a l'air niaiseux comme question, mais peut-être commencer par nous dire qui sont les demandeurs d'asile.
C'est une bonne question parce qu'on parle souvent de termes différents. Alors, c'est des demandeurs d'asile, c'est des gens qui sont arrivés au Canada, qui ont déposé une demande d'asile, mais ils ne sont pas encore reconnus comme étant des réfugiés. Alors, leur demande est en traitement par le gouvernement. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Et en attendant d'avoir une décision à savoir s'ils vont être reconnus comme étant réfugiés ou pas, ben, ils sont dans une espèce de... dans les limbes juridiques de statut, si on veut. Alors, le terme qu'on a donné pour eux, c'est demandeur d'asile.
Mais ça peut durer combien de temps, ces limbes-là?
Beaucoup trop longtemps. Ça peut durer des années, des fois. Là. Oui, oui. C'est le genre de choses qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, là, je veux dire, si on monte à il y a 10-15 ans, ça se réglait généralement en quelques mois, mais maintenant, il y a des gens qui attendent beaucoup plus longtemps.
C'est des gens qui ne se sentent pas en sécurité chez eux, dans le fond, puis qui viennent demander un peu de sécurité ici?
En théorie, oui.
C'est leurs allégations.
C'est leurs allégations à eux, c'est ça. Le gouvernement fédéral n'a pas encore formellement traité, révisé leur demande. Alors, c'est ce qu'ils disent eux. Et en attendant qu'il y ait une décision là-dessus, on ne peut pas en savoir plus.
À quel service ils ont droit au moment où on se parle?
Présentement, ils ont droit, puis ça dépend d'une province à l'autre, là, mais présentement, ils ont droit à, entre autres, une certaine aide au logement. On ne parle pas d'un montant énorme, on parle de 100 à 170 $, dépendant de critères d'où ils sont établis. Quand on compare au prix des loyers actuels, on s'entend que
c'est pas
ça qui va faire une énorme différence dans ta vie, mais ça aide. Mais en tant que personne qui habite au Québec, encore une fois, leur terme, c'est demandeur d'asile, mais ils ont quand même, en théorie, droit à tout ce que n'importe quelle autre personne qui habite au Québec a droit. Alors, ils ont droit, par exemple, à envoyer leurs enfants au CPE, aux garderies, dans les écoles. Ils ont droit à...
Ils ont-tu droit à un permis de travail?
Ça dépend du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial aussi, mais oui, ça aussi c'est un processus qui peut être des fois un peu plus long que voulu, puis encore une fois, les listes d'attente s'allongent, mais oui, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit d'essayer de gagner leur vie, c'est juste qu'en pratique, parce qu'ils sont dans une espèce de statut juridique précaire, c'est souvent assez difficile pour ces gens-là de se trouver un emploi, parce que si t'es un employeur, c'est assez tough engager quelqu'un en disant, n'importe quand, il pourrait recevoir une décision qui fait qu'il va être déporté.
Puis souvent, tu sais, il faut se mettre dans la peau de ces personnes-là, qu'on soit d'accord ou non avec les services qui sont donnés. Les premiers mois, si tu arrives aussi, mettons, avec des enfants, mais là, il faut que tu les inscrives à l'école, il faut que tu t'organises. Tu sais, oui, un permis de travail, mais il y a quand même quelques mois où les gens s'organisent, puis c'est normal qu'il y ait un peu d'aide pour pouvoir au moins atterrir et s'installer. Par la suite, est-ce qu'on devrait se dire, après 6 mois, par exemple, on considère que c'est le temps que ça prend pour, s'être sorti la tête de l'eau? Et là, normalement, peut-être, je vois que c'est ce que M. Dréville dit, après 6 mois, l'aide sociale terminerait réalistement dans un marché du travail comme on a actuellement. Est-ce qu'on pourrait penser qu'ils se trouvent un emploi, ces gens-là?
Certains oui, certains non. Il y a autant d'histoires et autant de réalités qu'il y a de demandeurs d'asile. Il y en a qui viennent de pays qui ont des systèmes complètement et totalement différents des nôtres. Il y en a qui viennent d'endroits où, je veux dire, la norme, c'est juste que tu graisses la patte de tous les fonctionnaires jusqu'à ce que quelqu'un soit de ton bord. Pour beaucoup de ces personnes-là, s'adapter à notre réalité, c'est pas toujours facile. Et puis, c'est vraiment frappant, c'est marquant. Pour quelqu'un qui a jamais voyagé, à quel point des pays différents peuvent avoir des systèmes différents. Se démêler dans tout ça, c'est pas toujours facile. Je veux dire, oui, idéalement, dans 6 mois, on peut s'imaginer que quelqu'un est capable de se trouver un travail, mais encore une fois, statut précaire, faut être prêt à dire à ton boss, oui, mais bon, je pourrais être renvoyé dans mon pays n'importe quand avec ma famille. Apprendre, c'est pas des gens qui parlent tous le français. Il y en a que oui, il y en a que non. Toutes les situations sont différentes. Et puis, je comprends la logique qui me semble un peu froide, mais quand même, c'est des fois, il faut qu'on prenne des décisions difficiles en politique, puis M. Drainville en propose une.
Est-ce payant comme sujet, politiquement?
Ça coûte pas cher parce que ces gens-là votent pas.
Tu vas parler à des gens qui parfois ont une certaine perception. Tu sais, ils mélangent de l'immigration avec des réfugiés, avec... T'sais, on a joué beaucoup cette carte-là dans les dernières semaines, avec des sondages qui demandaient aux Québécois qu'est-ce que vous pensez de l'immigration, l'immigration temporaire.
On mélange toutes les catégories.
Puis je pense que ça va chercher une espèce de fibre de mettre tout le monde dans le même panier, puis ça amène différents billets.
Oui, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui se passe. Puis là-dessus, je veux dire, la confusion est, je crois, peut-être un peu alimentée par les différents paliers de gouvernement eux-mêmes, parce que, justement, c'est des statuts qui sont, à la base, supposés être de très courte durée, là, le demandeur d'asile. Alors, grouper ça à l'intérieur aussi des travailleurs étrangers, un statut qui a lui-même changé dans les dernières années, toutes les autres réalités-là, je comprends parfaitement que le public soit confus. Et je
comprends.
On
entretient ça.
C'est en changeant toujours un peu les barèmes, c'est sûr qu'éventuellement, ça devient difficile de savoir de quel genre de personnes qu'on parle. Alors, quand on parle des demandeurs d'asile, c'est des gens qui sont venus ici, qui ont présenté une demande d'asile, qui disent « je ne me sens pas en sécurité chez moi, je ne peux pas retourner chez moi ». Et j'aimerais vraiment avoir une décision du gouvernement. Est-ce que vous êtes prêt à m'accepter ou non? Je pense que la moindre des choses, c'est de mettre pression sur le gouvernement fédéral pour prendre des décisions plus rapidement. Là-dessus, je suis d'accord avec M. Drainville. Mais après ça, à dire on va couper les vives aux gens, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir de la misère avec ça.
Parce que tu disais, c'est pas des gens qui votent, donc c'est payant politiquement. mais c'est coûteux financièrement en bout de ligne. Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va avoir des effets pervers si jamais... Je comprends qu'on essaie de négocier avec Ottawa à travers ça. Il faut lire entre les lignes.
Il y a de la politique, encore une fois.
Il y a de la politique. Mais si tu coupes l'aide de dernier recours à ces personnes-là...
Tu crées des problèmes sociaux,
et qui n'ont pas de logement... Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Tu crées une petite strate de la population extrêmement pauvre qui, finalement, va te coûter de l'argent d'une autre manière, avec d'autres services, avec d'autres problématiques sociales, non?
Ben, imaginons un scénario plausible. Okay? Imaginons une famille qui arrive, ne parle pas français. Ils se font dire « Bon, ben, t'as 6 mois pour te trouver un emploi. » Puis « Ah non, t'as pas droit à un logement subventionné. Ça, c'est pas pour toi. Oui, on veut que t'aies des enfants. Faut que tu subviennes à tes besoins. Trouve-toi un emploi. Mais bon, ton statut est précaire. Puis en plus, non, t'as pas de place en garderie. Ça fait qu'il va falloir que tu gères tes enfants autrement. Je veux dire, imaginez-vous être dans cette situation-là. Puis après ça, on vous coupe les vivres. On dit « Vous avez plus d'accès à de l'argent. Puis vous avez pas de filet social. Vous avez pas de réseau. Vous avez pas d'amis. »
C'est pas réaliste.
Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, l'argent qu'on va économiser, puis encore une fois, on parle pas de gros montant, là, du 100 à 170 piastres par mois par personne, c'est pas la fin du monde. Cet argent qu'on va économiser là, on va le payer tellement plus cher, je crains, puis là, je spécule, mais je crains qu'on va le payer tellement plus cher en augmentation de la criminalité, en augmentation de problèmes de santé, parce que, je veux dire, ces gens-là...
Itinérance,
tout ça, problèmes d'intégration sociale, puis ça, c'est multigénérationnel.
Des enfants là, qui sont là-dedans.
Exactement, tu sais, c'est des économies qui sont pas négligeables, là. Je veux dire, M. Drainville parle de 500 millions, c'est pas rien. Mais combien ça va coûter après ça en opérations policières, en toutes sortes d'autres problèmes qu'on va payer pendant, soyons clairs, des générations.
Puis on a déjà des problèmes à ce niveau-là.
On a déjà des gros problèmes. Puis justement, les problèmes qu'on a actuellement, l'itinérance, les problèmes de santé mentale, sont le résultat de décisions qu'on a prises pendant des générations aussi.
Mais les deux clés, là, c'est, tu l'as dit tantôt, les délais de traitement de ces dossiers-là sont beaucoup trop lents. On les laisse pendant plusieurs mois dans les limbes. Souvent, des gens qui s'installent ici ont le temps même d'avoir des enfants ici sur le territoire canadien. Puis l'autre clé, puis ça, c'est quand même compliqué aussi, c'est la réduction du nombre de demandeurs d'asile. Et ces deux éléments-là se trouvent où? Au fédéral. On n'a pas beaucoup de contrôle sur le palier québécois pour jouer sur vraiment ce qui pourrait faire une différence.
Oui, puis c'est là que vient un peu la logique, comme je disais, froide, mais encore une fois, la politique, des fois, il faut faire des décisions différentes, difficiles, de M. Drainville à dire, bon, ben si on rend la vie difficile, si on rend la vie un peu plus difficile aux demandeurs d'asile au Québec, peut-être qu'ils viendront pas ici, peut-être que ceux qui sont ici iront ailleurs.
Dans une autre province.
Et puis là-dessus, encore une fois, je veux dire, je veux être le plus charitable possible envers M. Drainville. J'ai beau pas être d'accord avec ses décisions, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a de la logique derrière ce qu'il dit. C'est vrai que présentement, par exemple, le Québec accueille une proportion disproportionnée des demandeurs d'asile par rapport au reste du Canada.
Est-ce que c'est parce qu'on est plus généreux? Est-ce que c'est plus accessible? Qu'est-ce qui fait qu'on est perçu comme étant la meilleure porte d'entrée pour des demandeurs d'asile à travers le pays?
C'est largement, je crois, le résultat que l'habitude un peu s'est créée, tu sais, ces gens-là se parlent entre eux, s'est créée entre autres pendant la pandémie, s'est créée avec le chemin Roxham. Mais tu sais, là-dessus aussi, il faut dire, tout comme ça prend un certain temps à ce que ce problème, tu sais, le problème persiste dans le temps, ça prend un temps à ce que ce problème-là se règle. Et j'ai comme l'impression, si on regarde les chiffres, puis là-dessus, j'étais allé chercher les chiffres du Bloc québécois. Là, je me suis dit, si un groupe qui est supposé être favorable aux intérêts du Québec, c'est bien eux, qui, par leurs propres chiffres, montrent que le problème est peut-être déjà en train de se régler tout seul. Le problème de la disproportion de la charge sur le système politique québécois, dans le sens où, en 2022, c'était 64 % des demandeurs d'asile qui étaient au Québec.
C'est énorme.
Mais depuis ce temps-là, c'est tombé. Maintenant, on est à peu près 33 à 35
De moitié.
Là, c'est tombé de moitié en termes de proportion, ce qui fait que le problème est peut-être un peu en train déjà de se régler.
Ça demeure élevé quand même.
Ça demeure élevé, mais tu sais, est-ce que si on laisse les choses aller, éventuellement, cette vague-là va se résorber par elle-même. Présentement, un peu plus que la moitié des demandeurs d'asile vont en Ontario, par exemple.
Mais au lieu de couper des services, on ne pourrait pas juste réduire le nombre qu'on accepte?
Mais ça, c'est pas à l'intérieur des pouvoirs du gouvernement du Québec. Ça, c'est à l'intérieur du pouvoir du gouvernement du Canada.
Parce que l'acceptation est au-dessus de notre tête. Ouais. Si les gens se présentent, puis on doit vivre avec, entre guillemets,
ouais,
carrément.
Puis, encore pire que ça, c'est même pas une décision aléatoire du gouvernement fédéral. C'est que c'est encadré par des conventions internationales.
Même le gouvernement fédéral a les options plutôt limitées là-dessus. T'sais, une chose que le gouvernement fédéral pourrait faire, c'est essayer, par exemple, d'équilibrer l'intégration à travers toutes les provinces différentes. différentes.
Mettre des visas aussi qui peuvent faire une différence. Il y a eu une grande vague de Mexicains à un certain moment parce qu'ils se servaient de visas de touristes finalement pour demander l'asile. Il y a eu récemment des visas à ce moment-là. Donc, le fédéral a quand même quelques clés pour y arriver. Mais est-ce que de menacer comme ça, de couper les services, à ton avis, est-ce que ça peut vraiment faire bouger Ottawa? Est-ce que Ottawa pourrait augmenter aussi l'argent qu'il donne aux provinces pour donner des services aux demandeurs d'asile?
Si c'est un bluff, peut-être. Si l'objectif de M. Drainville, c'est de dire « je vais menacer de mettre ces personnes-là dans une situation difficile » ou justement, ça va créer des vagues migratoires à l'intérieur du Canada, là, peut-être que cette menace-là pourrait pousser Ottawa à agir. Je veux dire, il y a plusieurs étapes à prendre avant que ce genre de bluff-là puisse fonctionner, puis c'est un méchant pari, un méchant risque. J'ai l'impression que c'est plutôt une situation où M. Drainville vise une cible politique qui est peut-être payante avec la base électorale qu'il
cherche
à aller
chercher. Parce que lui, actuellement, dans la position où il se retrouve, avec les intentions de vote, s'il se retrouvait chef du parti en partant, ce qui est famélique puis ce qui n'arrivera pas, puis même à l'intérieur même de la CAQ. Puis tu sais, Bernard Drainville se promène depuis des semaines en disant « Allez chercher vos cartes de membres, votez pour moi. » C'est comme si, avec cette sortie-là, il allait chercher le Québécois qui trouve que ça donc ben pas de bon sens puis que... J'ai l'impression qu'on flirte avec le racisme ces temps-ci. Là. C'est comme si on essaie d'aller chercher ces gens-là pour essayer de booster un vote. Je me questionne beaucoup sur la manière de faire les choses d'un individu qui n'est pas dans une position où il va pouvoir mettre en place une décision comme celle-là.
Ben, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'on flirte avec le racisme, mais on flirte certainement avec une certaine forme d'individualisme décomplexé où on dit, bon, ben, on prend soin, tu sais, l'espèce de « on prend soin des nôtres avant les autres ». Je peux comprendre, encore une fois, j'embarque pas vraiment dans cette logique-là. Je pense qu'on peut avoir, on a les moyens d'avoir un grand cœur, mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui voit les choses aller et puis qui sent que, justement, on est peut-être dans un navire en train de couler, peut-être qu'on devrait commencer à prioriser.
Mais peux-tu marquer des points avec ça?
Avec certaines personnes,
ça ne changera
oui,
pas grand-chose.
Certainement. je veux dire, c'est sûr qu'aussi, M. Drainville, présentement, est dans une position où il est obligé d'aller chercher des appuis. Si les choses continuent comme ça, il ne sera probablement pas chef de la CAQ. Alors, qu'il aille chercher une base un peu plus ouverte, un peu plus intéressée à de l'individualisme du genre. Ça cadre un peu dans le reste de sa campagne aussi, où il a, par exemple, été très fort contre les groupes syndiqués, où sa définition du vrai monde qui représente, on sent une espèce de philosophie de moi avant les autres, de l'individualisme, de je m'occupe de mes affaires en premier. Ça cadre dans une certaine approche, dans une certaine logique électorale qui pourrait peut-être fonctionner pour lui.
Mais on comprend que ça marche des fois, là, ces positionnements identitaires-là, mais est-ce qu'il ne risque pas d'avoir une étiquette de manque d'empathie aussi? Est-ce qu'il peut aller trop loin? Parce que la semaine passée, il a aussi dit que les éducatrices qui perdaient leur job, ben, c'était leur faute. Ils ont juste enlevé leur signe religieux. Ouais. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Là.
Rarement.
C'est rare. Là, que... Bon. Est-ce que ça peut devenir une faiblesse? Parce que j'ai l'impression des fois que ces affaires-là, c'est baisser les seuils d'immigration, la laïcité, ça pogne comme au début, mais qu'à un moment donné, quand on pousse trop, on étire trop la sauce...
En fait, quand la réalité arrive...
Ça décroche. Oui, puis en fait, les gens ne sont pas complètement insensibles non plus aux humains. Tu sais, oui, ils trouvent qu'on en reçoit beaucoup, ils trouvent qu'on manque de services, qu'il y a de la pression sur les services publics, mais ça m'a traversé l'esprit. Je me disais, M. Drainville, c'est comme si, en ce moment, il se donnait un branding de manque d'empathie.
Ben, c'est son choix de branding. Moi, ma crainte, c'est que ce genre de choses-là, après ça, une fois qu'on a tapé, on est allé chercher ce genre d'électeurs-là, on normalise ce genre de discours-là. Mm-hmm. On donne un peu la permission à d'autres personnes de miser là-dessus.
Moi, puis c'est
qu'à long terme, on change notre culture politique et notre culture sociale. Je veux dire, je crois qu'une des forces du Québec, c'est justement que comparé à plusieurs autres sociétés occidentales dans le monde, on tend à se soucier beaucoup plus des gens au bas de notre échelle en premier. Et ben, y a qui est plus au bas de notre échelle que quelqu'un que son statut est tellement précaire qu'il vit avec l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête que n'importe quel gouvernement fédéral pour lui envoyer une lettre pour dire « dans un mois, t'es out ». J'ai pas l'impression que taper sur ce monde-là, ça rentre tellement dans nos valeurs. Et même s'il y a des gains économiques, même s'il y a des gains financiers à aller chercher là, on sait tous qu'il y en a des pas mal plus gros à aller chercher ailleurs. Ben, je ne veux pas faire de démagogie, là, mais 500 millions, c'est un demi-saclique.
Puis, tu sais, je pense qu'on va finir par perdre le
c'est un bon point, ben, par exemple, que tu amènes.
c'est un excellent point. Puis, j'ai peur que ça nous repète d'en face. Parce que ces temps-ci, selon les différents partis politiques, tu vas entendre que c'est à cause de l'immigration qu'on manque de place dans nos écoles, qu'on manque de logement, qu'on manque de ci, qu'on manque de ça. On met tout dans le même panier. Puis, on dirait qu'à force de le répéter, là, on a l'impression que notre société est en perdition. Moi, je crains beaucoup que ça nous pète d'en face à un moment donné.
Oui, la politique, c'est beaucoup une question de feeling, c'est beaucoup une question de sentiment.
Mais il y a une responsabilité des politiciens, non, à ne pas nourrir des pensées comme celle-là.
Oui, absolument. Mais il y a une tension aussi où, je veux dire, si tu veux toujours jouer la carte de la vertu, des fois, tu perds en jouant la carte de la vertu. Et je peux comprendre que dans cette tension-là, des fois, il y a des politiciens qui vont essayer d'autres stratégies.
Il y a beaucoup de textos qui entrent. Julie nous dit « OK, coupons les services, mais donnons-leur un permis de travail. » L'Allemagne qui a annoncé cette semaine qu'il ferait une mesure dans ce sens-là. Ça pourrait être une solution?
Bien, c'est déjà des gens qui souvent ont accès à des permis de travail.
En partant?
Je veux dire, je pense que peut-être qu'on devrait aussi examiner est-ce qu'il y a d'autres embûches à ce que ces gens-là aient accès du travail, par exemple. C'est des gens qui, encore une fois, il y a autant de situations qu'il y a de personnes dans la situation.
Mais, c'est dur d'adresser un portrait.
C'est très, très dur d'adresser un portrait, mais je peux comprendre, par exemple, si c'est des gens qui ne parlent pas français, je peux comprendre qu'un commerce ne veuille pas les engager parce que ça crée des risques d'avoir des problèmes avec la loi 101. Puis on ne peut pas vraiment faire de compromis là-dessus non plus. Mmh. Alors, c'est plutôt... Je pense qu'au lieu de dire « on va te couper les vivres, fait que débrouille-toi », ce serait plutôt aller voir pourquoi est-ce que ces gens-là ont encore vraiment besoin d'aide après 6 mois, après 1 an.
Qu'est-ce qui fait que ça marche pas?
Est-ce que c'est une question d'accompagnement? Puis c'est pas nécessairement non plus le gouvernement qui a la réponse à tout. Peut-être que c'est aussi... on pourrait demander à des groupes communautaires d'aider, mais eux autres aussi sont débordés. La réponse est tellement pas facile, mais je pense pas que la solution, c'est de dire... On ferme les valves, débrouille-toi, parce que chaque fois qu'on fait ça en tant que société, on se ramasse à payer le prix 10 fois plus en dedans de quelques années, sinon quelques générations.
C'est intéressant, les textos vont vraiment dans tous les sens. Ça stimule des réactions dedans de moi, on dirait. Farnel Morissette, c'est toujours un gros plaisir de t'avoir. Merci d'avoir pris le temps. Et tu vois, c'est un dossier que je connaissais pas de fond en comble, fait que de t'avoir pour nous vulgariser ça, j'ai l'impression qu'il y a des auditeurs aussi qui trouvent un sens un peu plus, finalement, avec la discussion qu'on a eue. Fait que un gros merci, puis tu reviens quand tu veux, tu le sais.
Ben merci, c'est toujours un plaisir.
88-971-1021, texto, s'il y a quoi que ce soit, c'est le fun. On s'en va vous lire. On revient dans quelques instants dans Gravel en retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour par texto. Yeah.
Tu veux consommer le meilleur café au quotidien, t'as pas le goût de sortir trop souvent, viens donc t'équiper chez Sebab. Un café qui fait du bien à l'âme, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Café Sebab. Pour le meilleur café, oui, mais pour des conseils personnalisés, l'achat ou le nettoyage de ta machine, chez Sebab, tu fais toujours un déplacement qui est payant. Tu peux t'offrir la crème de la crème avec les machines espresso manuelles ou encore les machines automatiques Jura. Question de déguster le meilleur café encore tous les matins. Je pense que c'est quelque chose qu'on mérite de bien partir notre journée. Hein? Découvrez aussi notre plateforme de rendez-vous en ligne, cafésebab.com. On a des promotions en plus. Machine automatisée à l'achat d'une Jura E8. Vous pouvez gagner des accessoires et des cadeaux d'une valeur de 290 $. Pour ce qui est des machines manuelles à l'achat de l'Elite Anna 1, tu as aussi des accessoires et des cadeaux d'une valeur de 193 $ que tu peux gagner. Donc, pour consommation immédiate ou pour vous équiper à la maison, Café Sebab. Sebab sur la 3e avenue à Limoilou ou visitez cafésebab.com. J'ai fait en sorte que Véro a maintenant de la publicité sur Too Feed qui s'en vient à l'Impérial
Belge. Je me questionne beaucoup. Tu sais, je comprends là, qu'il y a bien des experts qui nous disent vos téléphones ne vous écoutent pas. C'est pas vrai.
Dans Gravel en retour, le nombre de sujets qu'on traite puis la publicité qui vient le 24 heures d'après.
Tu sais, je comprends que si on fait une recherche sur Wi-Fi puis tout le kit, c'est une chose.
Mais des fois, on ne fait qu'en parler.
Exactement. Puis tu le vois apparaître. C'est un cauchemar. Puis je sais pas comment enlever ça.
Ben,
je pense
peut
que tu peux
faire.
Pas l'enlever. Ouais, c'est ça, j'aimerais te rassurer, mais je pense
tomber
que tu peux
au fleuve fond, tu vas me dire.
Lance ton téléphone dans le fleuve.
Un burner phone.
Vends-le sur Marketplace.
Tout ça. Oh! Hey, on va en parler de Marketplace.
Trop dangereux.
Dans les prochains instants, si vous avez fait des transactions Marketplace qui ont drôlement viré, si vous avez déjà vécu des fraudes, 88-971-102, on veut vos histoires, parce qu'on va parler d'une histoire qui s'est passée du côté de Granby dans les prochaines minutes, mais j'ai pas le choix de retourner dans la circulation. C'est vraiment difficile aujourd'hui. D'ailleurs, Véro, t'as reçu un texto, hein? Ouais. personnel. Franck Carrel?
Oui, si vous êtes sur le boulevard Charest en direction est, il y a une voiture en panne juste avant Franck Carrel, puis actuellement, ça crée un bon ralentissement.
Sinon, pour ce qui est de la capitale, direction est, ben, c'est le classique hein, entre Henri IV et Laurentienne. Si vous êtes sur capitale, direction ouest, c'est entre Henri Bourassa que ça se passe et Laurentienne. D'ailleurs, quand je zoome sur ma carte, là, il y a l'air d'avoir un accident si vous êtes sur capitale est, juste un peu après Robert Bourassa, ce qui expliquerait peut-être à quel point c'est bordélique. Laurentienne Sud, il y a un ralentissement à partir de boulevard Le Bourgneuf jusqu'à dans le Bretel pour aller chercher capitale direction ouest. Si vous êtes sur Robert Bourassa direction nord entre Charest et la capitale, difficile. Il y a des problèmes aussi en passant sur Charest direction est, juste avant l'avenue Saint-Sacrement. Semble y avoir à la hauteur de... Non, c'est pas vrai.
Je pense près que du Tim Hortons. Tu es en train de parler de mon ralentissement.
C'est là, hein? Là, oui. Ah, c'est exactement là. Bon, ben, ce que Véro disait, là, ensuite de ça...
Moi, je suis hey, rendue plus en plus à l'aise à la place de Denis. Tu m'écoutes plus.
Ben oui, c'est ça. Voyons, je prends des mauvaises habitudes. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Charest jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte, toujours des ralentissements du Plessis Sud de Charest au pont Laporte. C'est assez rock'n'roll aussi, un peu plus haut dans le coin de Val-Bélair, entre, je vous dirais, Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle. Ça s'est installé également. Et sur la rive sud, c'est la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Autre chose, 418-971-1021, texto. On s'en va à Granby. Une vente sur Marketplace qui tourne au vinaigre. Êtes-vous... C'est un article de la presse qui est sorti.
Êtes-vous de type Marketplace, vendeur, acheteur ou
Moi, je suis une lécheuse de vitrine de Marketplace. Quand j'ai rien à faire, des fois, là, je vais me promener puis je vais me créer des besoins.
Pas?
Mais non, j'achète vraiment. Ben, en fait, sais-tu quoi? C'est pas vrai. L'année passée, quand j'ai acheté ma maison, j'ai comme acheté des coussins. J'en ai d'ailleurs beaucoup trop si jamais vous avez besoin de coussins.
J'achèterais pas ça.
Moi non plus, je pense juste aux puces de lit qui vont venir avec.
Ouais, les tissus,
il était neuf. Il était neuf, il y avait l'étiquette, puis je les ai fait laver, puis même, là. Puis j'ai acheté une machine à café qui était neuve aussi. Le gars en avait une, il en avait reçu une à Noël, fait qu'il se débarrassait de la sienne pour pas trop cher. Fait que j'ai fait quelques achats à ce moment-là parce que acheter une maison, c'est bol, c'est cher. Fait que j'avais besoin de réduire les coûts de certains items de la maisonnée. Mais à part ça, pour vrai, je suis vraiment peureuse. Parce que j'ai entendu tellement d'histoires qui ont mal tourné qu'on dirait que j'ai le réflexe d'envoyer quelqu'un d'autre si j'ai pas le choix. J'ai rarement vendu aussi sur Marketplace. Un téléphone une fois, mais c'est pas moi qui est allée. Je suis vraiment peureuse.
Ben c'est ça. Les appareils électroniques, moi, je veux pas. Sinon, tout ce qui est en bas de 50 $, je trouve que la perte de temps à répondre à tout le monde puis aux gens qui te demandent le prix de ton affaire alors qu'il est écrit dans ton annonce, je peux pas. Je n'ai pas cette
patience-là. T'as pas le temps de gérer la boîte, là. Oui.
Ça m'arrive des fois, j'envoie des annonces à mon chum, puis il me répond juste jamais, puis on dirait que je souhaite qu'il s'en occupe puis qu'il aille chercher mon affaire, mais là, lui, il est pas très fort sur Marketplace.
C'est-tu ce que je fais, là?
Pas.
Quand je louais mes appartements puis tout avant d'acheter une maison l'année passée, là, j'y allais beaucoup sur Marketplace. Tout ce qui est jumelé, appartement...
Ah, ça, oui, je peux comprendre.
Oui.
Parce que ça implique tout pas de que quelqu'un vienne chez
non,
nous, qu'on se rencontre d'un parking.
Exactement.
Un autre produit qui est vraiment bien là, pour vendre et acheter sur Marketplace, ce sont les jouets. Tout ce qui est pour enfants. Ça va super bien.
C'est des jouets,
une belle communauté, les communautés de parents,
communauté,
je pense.
C'est une belle communauté. Tu te fais pas avoir... Il y a comme une belle éthique de commerce.
Ouais. T'as raison.
Je sais pas comment
Il y a vraiment ça dépend des catégories. C'est vraiment ça, parce que pour tout ce qui est voiture aussi, Marketplace, des fois, ça a du sens. Bref, je vous amène à Granby, puis si vous avez des histoires, j'en vois rentrer, là, 88-971-1021, si vous pouvez surveiller les textos, les filles. C'est une affaire électronique, justement, Antonine, qui s'est passée du côté de Granby. Ça devait être une simple vente de cellulaire sur Marketplace, puis ça a pris une drôle de tournure. Il y a des gars qui se sont fait passer pour des acheteurs, deux adolescents, et... ils sont comme arrivés sur place et ils ont aspergé les deux autres ados qui, finalement, achetaient des téléphones, qui étaient des vendeurs potentiels. Poivre de Cayenne, carrément. Ils ont pris la fuite, évidemment, vous comprendrez, avec les appareils. Fait que c'est une scène qui est assez surréelle. Là. Ça s'est passé carrément hier soir, 19h30. Les policiers, évidemment, qui ont été appelés à se rendre à la résidence des deux gars qui avaient publié l'annonce sur Marketplace. Puis c'est pas la première histoire. Tu sais, je vous épargne tous les détails là, parce que là, évidemment, on cherche les suspects et compagnie, là. Mais récemment, on m'a raconté une histoire de téléphone cellulaire. Ce qui est bien populaire ces temps-ci, c'est le faux téléphone.
Ah ben oui.
Fait que l'échange se passe super bien. Il n'y a pas de problème. Mais par exemple, quand tu repars avec ton nouveau soi-disant téléphone, puis que tu l'ouvres, ben tu te rends compte que c'est une bébelle, la carte qu'il y a dedans, là, c'est comme c'est plein de virus cette affaire-là et tu peux rien faire avec ça. L'écran s'allume, mais ton téléphone est inutilisable. Ou c'est un faux fond d'écran qu'on va mettre. C'est vraiment, vraiment bien fait, là. Puis c'est arrivé à une fille que je connais qui a eu l'intelligence, j'ai envie de dire, d'ouvrir le téléphone puis de le tester devant le vendeur. Puis assez de caractère pour être capable de récupérer l'argent qu'elle venait de donner, mais c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement.
Ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus, il y a des zones sécurisées là, qui ont été mises en place par les services de police. Il y en a à Québec, la SQ en a mis dans certaines municipalités qui n'ont pas leur propre service de police. Parce que tu sais, ce que tu racontais, ce qui s'est déroulé à Granby avec le poivre de Cayenne, je me dis, si t'es dans l'espace sécurisé, c'est filmé par caméra, moins de chances que quelqu'un de mal intentionné agisse.
Bien, en fait, les gens mal intentionnés ne viendront pas si tu leur donnes rendez-vous dans ces endroits-là.
Par contre, le faux téléphone, pas sûr que les policiers, même s'ils ont des images, vont partir après ces gens-là. T'sais, c'est tellement des crimes avec des petites valeurs. T'sais, c'est comme les vols de Bessic à Québec. À un moment donné, tu pognes quelqu'un, tu te rends compte qu'il faisait du récel, tu retrouves plein de vélos, mais ils n'ont pas enquêté là, sur le
non,
vol de vélo.
Non, ils mettent pas des enquêteurs quand tu te fais voler des petits montants d'argent. Mais les appareils électroniques, honnêtement, c'est inquiétant. Là. Puis, moi aussi, j'ai eu plein d'histoires dans mon entourage, des laptops, des iPads, des téléviseurs, etc. On dirait que la fraude et les gens mal intentionnés, ça se concentre beaucoup autour de ces produits-là. Tu le disais, il y a les zones sécurisées, mais il faut vraiment prendre des précautions du début à la fin. Tu sais, des fois, moi, je trouve que... Je dis pas que les gens qui se sont fait avoir n'ont pas été vigilants ou quoi que ce soit, mais... Tu sais, quand tu poses des questions, quand tu proposes des lieux publics, puis que c'est compliqué, puis que...
Qu'il se trouve des excuses.
Des excuses, etc. Tu sais, quand tu le files pas, là, souvent, c'est parce qu'il y a un petit peu hangué.
Mais t'as vraiment raison. L'instinct est fort là-dessus, souvent. Il y a des gens qui vont demander des paiements d'avance. Attends une minute, là. Ça se fait en personne. Puis normalement, t'essaies de vérifier que tout fonctionne, puis t'essaies que ce soit fait de la bonne façon. Puis c'est plate parce que ce sont des espaces... qui, normalement, pourrait vraiment nous aider. On n'arrête pas d'en parler à quel point c'est tough, l'économie, puis à quel point on a de la misère. Puis tu parlais tantôt, Antonine, de tout ce qui était communauté de jeunes parents, de parents pour les plus jeunes, des habits de bébé, là, des petits pyjamas, des...
qui ont été portés genre 3 semaines.
Ah oui, ça dure 10 minutes, là.
C'est des gros sacs de linge, là.
Ça aide
les gens,
les
parents. Mettent plein, ils disent 50$. Pis...
Pour un lot.
Pour un lot, puis honnêtement, je vous dis, on dirait que l'éthique d'échange est tellement claire. T'sais, les gens ne viennent pas dire « Ah, oh, je veux aller voir le linge. » Tout le monde se fait confiance, puis ça fonctionne assez bien. Ça va très bien. Après ça, moi, j'ai vendu quand même quelques meubles. Tantôt, on parlait de demandeurs d'asile qui arrivent ici puis qui doivent trouver plein d'affaires. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes immigrantes qui m'ont acheté toutes sortes de meubles. Puis souvent, quand ils arrivaient pour chercher la base de lit ou le fauteuil qu'on vendait, je disais « Ah, ben avez-vous aussi besoin d'une lampe? Avez-vous aussi besoin
d'un... » affaires que tu n'avais pas nécessairement
avant,
c'est
une bonne
idée.
Je voyais bien qu'ils venaient d'arriver, puis je me disais, j'ai plein d'affaires à donner. Puis des affaires qui disaient, ah ben oui, si on en a besoin, si on en a moins besoin, j'ai même donné des manteaux, des vêtements à ce moment-là.
Moi, je suis plus du type à donner qu'à essayer de vendre. Puis, gars, je le sais, là, probablement que j'ai des dizaines, peut-être même des centaines de dollars que j'aurais pu faire avec ça, mais j'achète la paix. Tu sais, je suis comme, hey, tant pis, là, je vais aller porter ça à la ressourcerie ou je vais aller porter ça à telle place. Ça me tente comme pas l'espèce de processus de... mettre en vente. Est-ce que cet article est toujours disponible? Oui. Plus de réponse. J'ai pas le goût de ça. J'ai pas le goût de parler avec des inconnus. J'ai pas le goût de... T'sais, ici, là, il y a des collègues de travail qui sont top. Ils donnent rendez-vous en bas, dans le stationnement, puis il y a quasiment tous les jours, let's go.
Ils doivent amortir beaucoup leurs dépenses. Quand
probablement.
Après utilisation,
ben, ça vaut vraiment la peine.
Tes coûts. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Moi, c'est pour ça, en bas de 50$, oubliez ça.
On a une collègue à s'habiller littéralement sur Marketplace pour les friperies. Puis je veux dire, du sapré beau linge, là, mais elle... Puis il y a peut-être aussi ça, l'algorithme aussi, à un moment donné, qui rentre là-dedans, parce que tu peux évaluer les vendeurs, tu peux... Mais elle, tout ce qui est souliers, vêtements, tout ce qu'elle peut trouver. Puis elle trouve le moyen de bien faire ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Des fois, c'est...
Mettre les souliers de quelqu'un d'autre, même au quai, j'ai
l'impression. Toi, puis t'as peur des pieds, là. ici, j'ai acheté et vendu sans problème sur Marketplace, mais c'est sûr qu'avec la face de criminel que j'ai, il n'y a pas de problème, évidemment, avec les gens. Il y a Claude-André qui nous dit tout ce qui a un fonctionnement, là, donc encore là, on parle d'électronique et compagnie, c'est non. Sauf véhicule, parce que je m'y connais encore, là. tu sais, moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que dans une relation que j'ai eue dans le passé, la personne avec qui j'étais était vraiment, vraiment sacoche quand on parlait de char. Fait qu'il savait quoi regarder, mm-hmm. tu sais. Mais moi, toute seule, me ramasser sur Marketplace, m'acheter un véhicule... Ah!
Non. Il y a les gens aussi que tu peux rencontrer sur notre Twitch, un des commentaires qui s'est écrit. Je vends souvent sur Marketplace et dans les moments les plus étranges, c'est quand une dame s'est mise à quatre pattes pour renifler la table de nuit pour savoir si on était fumeur ou pas.
C'est.
OK, madame. Hey, moi, j'ai un monsieur, j'y avais vendu un climatiseur et il est revenu sonner à la porte.
Non!
À 22 heures. Tu sais, moi, j'ai un chien, donc. Mes enfants dorment.
Oh, la même journée?
La même journée, mais en fait, c'était de ma faute. J'y avais donné la mauvaise manette. Mais tu peux-tu ne pas venir sonner à ma porte, s'il vous plaît? À 10 heures. J'ai fait un tabarouette de
ça. Peux-tu m'écrire?
Peux-tu m'écrire, s'il te plaît?
Mais lui, peut-être que. Non, mais peut-être que lui, il avait peur de s'être fait avoir. Tu sais, fait qu'il s'est dit me retourner
directement à la porte. Il y avait un piton au pire après le climatiseur. Ben oui, ça aurait pu attendre à demain. Maintenant.
C'est pas compliqué. Puis en plus, te donner ton adresse. Généralement, tu vas pas directement chez une personne quand tu fais.
C'est rare une arnaque quand t'as l'adresse de la personne.
Il y a des gens qui disent aussi que pour une vente, achat de téléphone, tablette ou peu importe, tu peux aller faire vérifier avec ton fournisseur. Tu sais, comme les Bell, TELUS, Vidéotron de ce monde, ça peut être un autre
ouais,
truc.
Ouais, mais il faudrait que tu te retrouves avec l'acheteur.
Mais c'est ça,
là-bas,
c'est ça, c'est de l'effort. En même temps, encore une fois, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont prêts à faire un bout. Là. Il y a quelqu'un au téléphone, on va aller voir. Allô, Boulevard?
Hey, salut, je veux garder l'anonymat.
Ben avec plaisir, mon ami, t'es en onde, par exemple, fait que je te demanderai pas ton nom. Vas-y.
J'ai acheté un garage de toile à un moment donné. Il était nul, il a fait un hiver, fait que... pas de trouble, la toile est démanchée, la structure est là. Le prix est en conséquence pour que je démanche. J'arrive, je démanche toute la structure, je te râpe tout ça bien comme faut, je ramasse la toile, je verrai le chenou, puis je sais pas si elle démanche la toile pour la faire sécher. Fait que je trouve la toile, Christy, il a coupé quatre portes!
Arrête!
Fait que la toile, si j'étais parti de la rive sud, j'étais monté avec, à Beauport. Il avait coupé quatre portes, là, je le rappelle. Et j'ai dit, écoute, je t'ai coupé quatre portes, sacrément. Il a dit, ah, oh, mais c'est écrit dans l'annonce. Hey, il dit, regarde ton annonce, c'est pas écrit. Il regarde l'annonce. Oui, c'est bien vrai, c'est pas écrit. Oui, ramène-le, toi, je te dis. Hey, t'as pas eu, là? J'ai passé une heure à démarcher tout ça, là.
Hey, mais ouais. Au moins, tu as été capable de le rejoindre parce qu'il y a bien du monde qui aurait fermé leur compte ou que.
T'as-tu remboursé
pas répondu?
Une partie, au moins?
Pardon?
Il t'a-tu remboursé une partie?
Hey, il m'a remboursé en totalité. Mais Colin, c'est moi qui ai perdu du temps là-dessus. Je suis parti de la rive sud. Je suis monté à Beauport. Je l'ai démanché. J'ai tout râpé le tuyau, tout séparé à patente, tout ensemble. J'ai sacré les traces à terre. J'ai tout remonté. J'ai démanché ton garage pour rien,
mais c'est fâchant, t'as raison. C'est comme le monde qui met, mettons, des articles comme des pneus, puis tu sais, des bébelles mécaniques qui ont besoin de détails. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a de quoi qui.
C'est déplacé pour rien.
Ben absolument. Dans les autos, là, des affaires d'air climatisé, puis tout.
Ah, le gars, il dit, écoute, j'étais certain de l'avoir écrit, je m'excuse. Il dit, j'ai averti ma blonde, on retourne à la maison, je t'en donne ton argent, ça finira de là. Là, j'ai dit, là, il me dit. Tu veux-tu me l'acheter pour moins cher? Mais au pire, on m'a dit à ma blonde qu'elle fasse un transfert. Il dit, ben non, tu as coupé quatre portes.
J'en ai besoin des portes.
Je veux pas un gazebo.
Là, on a un gros garage d'eau, ben 20 pieds par 20, il a coupé quatre portes.
Oh mon doux Seigneur! Hey, merci.
On peut toujours m'avoir un peu.
Ben, et toujours, d'une façon ou d'une autre. Merci d'avoir appelé tes smart.
Salut, bye-bye.
Dans ce qui irrite sur Marketplace, Vincent nous écrit « Dis-moi ce qui me tape sur les nerfs, c'est les lowballers. Je demande 2 500$ pour mon 4 roues, le gars m'offre 800. Tu veux-tu rire de moi? »
Ouais,
franchement. Il a pas offert 2 250$, il a offert 800.
Parce que tu peux dealer.
Un gars,
c'est ça, tu peux dealer, mais il y a une méchante différence entre 2 500$
et 800$. Mais moi, je réponds pas à ces messages-là. Puis moi, je dis dans mon annonce, par exemple, mettons que c'est un « me », je vais dire « je ne livre pas ».
Ben oui, okay. J'espère.
Tu mets des détails.
Donc, parce que souvent, c'est la première question qu'ils demandent. Livres-tu? Mais... Non, je ne suis pas une compagnie.
Et je réponds pas. Il est écrit. Puis, en fait, dans mon annonce, je dis je ne réponds qu'aux gens qui sont prêts comme à.
Ouais. qui sont sérieux. Ou tu sais, il y en a des fois qui le disent, là, moi, il n'y a pas de négociation. Là. C'est ça le prix, c'est tout. Je l'ai acheté neuf, ça fait pas, ça rentre pas chez nous. Viens le prendre, il est à toi. T'sais. Non,
c'est
non. Mais c'est un drôle de milieu. Mais ça, j'ai l'impression que c'est comme n'importe quelle place où tu vas économiser. Ça prend du temps. Tu sais, là, on parle de marketplace pour
on
le second main.
On aurait pu parler des marchés
au plus. Hein? Bien, ça, mais Véro, juste dans notre quotidien, l'épicerie. Ça prend du temps si tu veux faire du couponing, là, puis prendre des applications pour sauver de l'argent.
Ça
puis...
prend de la patience.
Exactement.
Pour ces affaires-là.
Ça vient avec.
Je pense que, en tout cas, moi, je pense que je n'ai pas beaucoup pour ça.
Je pense que j'en ai pas énormément non plus, pour être super honnête. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit, moi, j'ai déjà mis mon Murano Nissan en auto à vendre sur Marketplace, puis qui Kijiji, après 78 ans, il y avait des personnes de Montréal qui étaient descendues pour venir le voir. Finalement, ça faisait pas leur affaire, mais ils voulaient que je leur rembourse l'essence parce qu'ils étaient venus le voir.
Ben
écoutez,
oui.
Histoire d'horreur où on s'est obstiné à l'infini.
Oh mon Dieu, cauchemar.
Cauchemar, tu dis, mais ça fait partie de la game. Malheureusement, ça fait partie de la game. Écoute, par exemple, une situation comme il s'est passé à Grambec, le pauvre de Cayenne, là, on vire dans la criminalité, puis c'est là où il faut peut-être être un peu plus conscient, puis s'arranger pour être en public. 88-971-1021, continuez de nous envoyer vos histoires, je trouve ça le fun à lire. On revient dans quelques instants, boulevard 1021. Il faut vous dire que dans les prochaines minutes, il y a Élise Berger-Pelletier, Urgentelet, il fait un bout quand même, qui n'est pas venu nous voir dans Gravel en retour, qui va venir nous jaser de séries médicales.
Il y en a tellement, puis on dirait qu'il y a une recrudescence. Il y a eu des années où, mon Dieu, il y en avait beaucoup. On s'est un peu tanné.
Les Grey's Anatomy.
C'est série médicale. Il y en a que c'est pas mal plus, effectivement, des histoires d'amour que des vraies séries médicales. Mais depuis quelques années, il y en a des très bonnes. Puis moi, je pense à De Pitt, là.
Bien, tu vois, dada. Elle m'a écrit pour me dire, je l'ai commencé, puis il y a quelque chose de pas pire, là. On est ailleurs de stats, mettons, là, pour prendre un peu un exemple québécois. Mais j'ai hâte qu'on en parle, parce que moi, c'est une série de médecine qui m'a donné envie de travailler en médecine à l'époque.
Ça a bien marché. C'est
oui.
Super!
Maintenant, je fais des blagues à la radio. Vraiment, j'ai réussi ma vie. On revient dans quelques instants dans Gravel à retour.
Gravel du Québec.
Faut vraiment que vous profitiez de cette semaine de relâche pour aller manger au restaurant avec les petits. Là, vous vous dites, ben oui, mon dream, il me semble se passer cher les sorties au resto en famille à ta minute. Normandin. Pour l'occasion de la relâche, Normandin est encore une fois la destination familiale par excellence avec le menu pour enfants le plus complet et le plus diversifié. 15 choix qui comprennent l'entrée de crudité, le plat principal, le breuvage, le dessert, tout ça pour 1$. 1$ jusqu'au 8 mars à l'achat d'un repas adulte, c'est rien. Et le 1$ de chaque repas enfant est remis au club des petits déjeuners, ce que je trouve vraiment hot. Le menu pour enfants qui comprend des déjeuners qui sont servis en tout temps. Il y a des cahiers d'activités aussi et des jeux questionnaires qui sont disponibles pour s'amuser puis passer du bon temps en famille à table. Pour la durée de la promotion, les familles vont pouvoir se procurer aussi 3 livres à collectionner au prix de 3$. Prix assez spécial parce que normalement, c'est 15$. L'offre est disponible à l'achat d'un repas aussi. C'est des livres de la populaire collection Ludo et Méninges. C'est écrit par des auteurs d'ici, c'est distribué par Gladius. Bref, le menu très, très diversifié qui permet aux parents de savourer pleinement la relâche. Eux aussi, je vous le rappelle, 1$ pour votre enfant avec un repas adulte. Normandin, ça fait plaisir.
Les Jeux du Canada.
Bon, vous allez peut-être me dire que ça fait fifille comme commentaire, là, mais j'ai une certaine gratitude en regardant à l'extérieur, parce que je sais pas si vous remarquez qu'il approche 5 heures à grands pas. Puis fait clair.
C'est spectaculaire.
Fait clair, le ciel est beau. Vraiment, on va avoir un beau coucher de soleil.
Puis là, je comprends qu'on change l'heure en fin de semaine puis que demain, ça va être un acquis. Là. Ben pas demain, mais lundi. Mais moi, de sortir de la job à 18h et de voir qu'il reste un petit fond de rosée à
game
l'ouest.
Game changer.
Là, c'est beaucoup d'espoir.
Fait du bien, Motadine.
J'arrive pas à savoir pour qui c'est le pire. La gang du matin qui, pendant une bonne portion de l'hiver, travaille tôt au noir mais voit le lever du soleil, ou nous autres, qui, tu sais, quand tu commences à faire
nous.
Noir à 4 heures. Là.
Non, c'est bien pour nous. Parce que nous autres, le lever du soleil, il est du bon bord en plus. Fait qu'au moins, ils ont un spectacle. Nous autres, on n'a absolument rien. Nous
autres, c'est la fin. Là.
C'est épouvantable.
Puis qui s'étire.
Quand
ça
on
juste
est
pas de bon sens.
Chanceux lever de lune, mais ça n'a pas nécessairement toujours le même impact.
Non, puis tu sais, quand il y a des nuages, pas pareil. C'est pas la luminosité, etc., etc.
On parle de l'extérieur, c'est bien, bien beau, mais si vous êtes dehors en ce moment pour une raison que j'ignore, ben il fait quand même frais. On ressent autour de moins 17. En réalité, c'est moins 9 présentement à l'extérieur. Maximum de moins 7 pour ce soir et cette nuit. Demain, on est à 0. Alternance soleil-nuage. À partir de samedi, c'est vraiment pas beau. Là. Je vous dirais que c'est ben, vraiment pas beau. Il va faire 10 degrés, mais il va mouillasser.
Mais ça va fondre. On va se débarrasser des patinoires dans les rues de quartier.
Oui, mais si on s'en va dans le moins en pleine nuit, on va glisser sur un méchant temps le lendemain.
On va faire les patinoires dans les rues de quartier.
Je suis pas aussi optimiste que toi, Véro. Dans les prochains jours, donc, ça va être pluvieux et le soleil qui devrait être de retour techniquement mardi prochain. On fait une tournée de nouvelles à l'approche de 5 heures. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité?
Hey, plus tôt cette semaine, je vous ai parlé du procès qui a cours, une poursuite en diffamation qu'a intenté le cardinal Ouellet envers Pamela Grolot, une femme qui fait partie, entre autres,